La parole du jour avec Sœur Marina de la communauté du Chemin Neuf.
Chères auditrices, chers auditeurs, un grand bonjour à chacun de vous. Nous arrivons aujourd'hui au troisième temps de ce long poème du bien-aimé. Je vais lire, chapitre 4, les versets 12 à 15. Jardin fermé, ma sœur fiancée, source fermée à clé, fontaine scellée. Un paradis de grenades jaillit de toi, merveille de fruits. Henné, nard et safran, cannelle et cinnamome, et tous les arbres à encens. Myrrhe et aloès, et tous les baumes les plus fins. Fontaine des jardins, puits d'eau vivante, torrent du Liban. De terre promise, la bien-aimée devient jardin, et jardin paradisiaque. L'élément liquide, en effet, encadre ce petit poème qui est un joyau. Au verset 12, « Jardin fermé, source fermée à clé, fontaine scellée. » Et au verset 15, « Fontaine des jardins, puits d'eau vivante, torrent du Liban. » L'eau, élément de la création d'où sort tout le reste de la création, comme nous le narre Genèse 1. Hier, on a vu dans le deuxième moment du poème du bien-aimé qu'il la comparait à la terre promise, terre de lait et de miel. C'était une référence à l'Exode. Aujourd'hui, la fin du poème du bien-aimé nous conduit plutôt vers la Genèse. C'est comme si le mouvement de retour vers l'origine se radicalisait dans la méditation de la bien-aimée sur cet amour qui le traverse. Ainsi, pour reprendre un petit peu la cohérence de ce long poème du bien-aimé, ainsi, la voix du bien-aimé s'est fait enfin entendre dans la rêverie de la bien-aimée. Il rend hommage à sa bien-aimée comme si elle avait toujours été en sortie vers lui, toujours auprès de lui, ce qui n'est pourtant pas le cas, comme on l'a vu précédemment. Le bien-aimé apparaît sous le signe discret d'une descente, une kénose, comme on dirait en grec, ça veut dire descente, abaissement, qui se fait d'abord par le regard, comme on l'a vu dans le premier moment du poème. Vous vous souvenez, quand il la regardait, ses yeux, puis ses joues, puis ses lèvres, puis ses seins. Comme toujours, il a l'initiative. Et dans le deuxième moment du long poème, il entreprenait de faire descendre la bien-aimée de sa hauteur, de la faire descendre des montagnes du Liban, pour la rejoindre dans le jardin qu'elle est. Ça, c'est le poème d'aujourd'hui. Il a décrit sa bien-aimée successivement comme terre promise et comme jardin d'Éden, nouvelle figure de l'origine. Et la fin de cette première partie et de l'éloge du bien-aimé se termine sur le thème de l'union des deux aimés. On va entendre en 4, 16 et 5, 1 un rapide petit dialogue où d'abord elle prend la parole, puis lui prend la parole et ensuite les deux prennent la parole. Je lis 4, 16. Elle, éveille-toi vent du nord et viens vent du sud. Souffle sur mon jardin, que ses baumes s'épanchent. Il vient dans son jardin, mon amour, il mange un fruit merveilleux. Et là, c'est lui. Je suis venue dans mon jardin, ma sœur fiancée. J'ai recueilli ma myrrhe et mon baume, j'ai mangé mon miel et mon rayon, J'ai bu mon vin et mon lait. » Et là, c'est elle et lui probablement ensemble. « Mangez, mes amis, buvez jusqu'à l'ivresse, vous qui m'êtes cher. » Étonnant, ces versets qui concluent la première partie du poème avec cette invitation, qui pourrait paraître scandaleuse, aux amis de la bien-aimée et du bien-aimé à, d'une certaine manière, jouir de l'intimité des deux. Alors, on a déjà parlé, à propos du prologue, de cet élargissement du sujet singulier au sujet pluriel. On a vu dans le début du prologue que c'était la bien-aimée qui disait quelque chose à propos de son bien-aimé, et ensuite, elle disait « courons, allons vers lui ». Alors, on a vu que c'était un peu réducteur de penser qu'il y a là l'idée d'un harem ou de quelque chose comme ça, mais qu'il valait mieux comprendre les choses de cette manière-là, profonde. Je cite « Quand on aime quelqu'un, il est difficile de ne pas penser que les autres, d'une certaine manière, ne sont pas eux-mêmes éclaboussés par la beauté de celui qu'on aime. » Et quand... Alors moi, je suis religieuse et je ne suis pas mariée, je ne suis pas un compagnon ou une compagne, mais je peux le vivre dans ma vie spirituelle avec le Seigneur. Je crois que... Je témoigne deux minutes pour dire j'ai une relation singulière avec lui, mais j'ai qu'un bonheur, c'est de penser que d'autres peuvent goûter cet amour. Alors pour conclure maintenant... cette première grande partie du cantique, je vais vous indiquer trois directions. Qu'est-ce qu'on voit dans cette première partie du cantique ? Eh bien, d'abord, une intériorité qui s'approfondit. En effet, la rêverie de Cantique 2, 8, 17... matinale, printanière, devient nocturne, en 3, 1, 6. Et puis la bien-aimée, tout d'un coup, se laisse conduire vers une vision théophanique qui révèle Dieu, avec, vous vous souvenez, le mariage de Salomon et l'apparition sur la litière nuptiale de Amour lui-même. On dirait que la bien-aimée passe du subconscient vers l'inconscient, avec la recherche dans la ville, labyrinthique, et puis de l'inconscient psychique à l'inconscient spirituel. Elle se remémore son grand amour, et elle est comme conduite, tout en méditant son histoire d'amour, vers la question de l'origine de l'amour. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que la voix d'un cœur, le cœur des filles de Jérusalem, prend le relais, au moment où on parle de la révélation d'amour. Comme si cette révélation d'amour engageait une mémoire plus large que la mémoire seule de la bien-aimée. Deuxième thème, qui ressaisit un petit peu la première partie du cantique, c'est le thème dont on a déjà parlé du retour vers les origines. En même temps que la rêverie de la bien-aimée explore des dimensions de plus en plus profondes, le poème multiplie les allusions à la notion d'origine, comme l'a bien noté Paul Beauchamp, par toute une série de figures. Figure familiale à travers la mère de la bien-aimée, en Cantique 3-4, mais aussi mère du bien-aimé, en Cantique 3-11, où il est question de la mère qui pose la couronne sur Salomon. Figure nationale à travers Salomon, qui représente le grand amoureux dans l'imaginaire des fils d'Israël. Et puis, figure de l'origine géographique, mythique, à travers les métaphores du corps aimé comme terre promise et jardin d'Éden. Ça, c'était dans la louange que fait le bien-aimé. Troisième thème, et je m'arrêterai là, le thème de la descente. Si la bien-aimée dans cette première grande partie du cantique, passe de profondeur en profondeur dans un irrésistible mouvement d'anamnèse, le bien-aimé, lui, s'inscrit dans une kénose. Il vient à sa bien-aimée par-dessus les collines, la contemple d'un regard qui s'abaisse, puis l'invite à descendre du mont Liban pour le rejoindre. Et de là, il descend lui-même dans la terre promise qu'elle est, et de cette terre dans le jardin de leur intimité.